le parent qui va voir son fils écrasé sous une voiture et qui va réussir à soulever la voiture à la force de ses jambes. On sait aujourd'hui que les événements traumatiques permettent un développement de la force et d'accéder à 100% de ses fibres en fait.
Bienvenue dans ce podcast, je suis Vlad, aujourd'hui j'accueille Joris Diff pour parler de différents facteurs de la force. Nous allons commencer par parler du facteur nerveux.
On pourrait entendre par facteur nerveux, ça va être tout ce qui va permettre de déclencher la contraction musculaire. En gros, c'est la création et la transmission de l'ordre de contraction à tes fibres. Ce facteur nerveux, il va permettre du coup de contracter plus ou moins de fibres. Et ensuite, en fonction du pourcentage de fibres recrutées ou de la quantité de fibres à disponibilité, ça va permettre de produire de la force, tout simplement. Les facteurs nerveux, on peut, si on retrace un petit peu le chemin du facteur nerveux, en gros, ça commence par la motivation, donc l'idée, tout simplement, de créer ta contraction. Si tu veux fléchir le coude, enfin, juste l'idée de fléchir le coude. D'un point de vue neuro, ça va se passer dans ton cerveau, dans ton cortex moteur, qui va mettre ça au point, pour la faire courte. C'est transmis par ta moelle épinière, ça passe par tes nerfs. Là, ça atteint la jonction entre le nerf et le muscle. Et puis, ça va entraîner une petite cascade chimique et physiologique qui va, in fine, faire que les fibres musculaires vont se rapprocher les unes des autres. Et du coup, ça crée une contraction. Voilà, en gros, comment je définirais, moi, le facteur nerveux.
Ok. Et alors, comment, première chose qui m'a aidé,
ouais.
comment progresser, comment entraîner un peu ce facteur nerveux? Genre, comment faire en sorte que quand je fais mon DOP couché, c'est bien les fibres, les bonnes fibres, des bons muscles qui viennent m'aider? Et comment faire pour qu'il y en ait le plus possible, qui arrive le plus vite possible?
Alors, pour ce qui est du facteur nerveux, en fait, le tissu nerveux, c'est un peu comme le tissu musculaire, tu vois. Plus il est stimulé, plus il va s'adapter. Enfin, stimuler intelligemment, bien sûr. Le but, c'est pas non plus de le surstimuler et de crush. Donc, quand il est stimulé intelligemment avec un bon ratio contrainte-récupération, il va se développer. Faut voir ça un petit peu comme le lit d'une rivière, un peu comme un cours d'eau, tu vois. Plus il va y avoir de courant, et plus on va passer d'un ruisseau à une rivière et après à un fleuve. Et là, c'est à peu près la même idée. Plus tu vas envoyer d'un flux nerveux, et mieux la fibre nerveuse va s'adapter. Une des adaptations, par exemple, c'est ce qu'on appelle la myélinisation des axones. Tout simplement, tu as une gaine de meilleure qualité, donc le message se transmet mieux. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour ça, il faudra recruter les bons muscles. Ça, c'est plutôt ta partie, en gros, comment mieux recruter les pecs ou les épaules ou quoi que ce soit au développé couché. Donc pour ça, tu vas plutôt faire varier les tensions, enfin faire varier les angles pour mettre la tension sur différents muscles. En revanche, pour ce qui est purement du nerveux, faut pousser lourd, faut pousser fort. Et pour ça, du coup, on va être sur des ranges qui vont être relativement courtes. Après, on peut faire varier ça aussi sous d'autres manières. Par exemple, avec le temps sous tension. Parce que forcément, plus tu as de temps sous tension, plus tu as de temps où tu vas envoyer de l'influx nerveux. Et du coup, là, on peut jouer sur les tempos avec des pauses, avec de l'excentrique, etc.
Donc, c'est de là que viennent les 3 à 5 reps pour la force, du coup, je présume.
C'est ça.
Et voilà, très.
En soi, le 3 à 5 reps, c'est pas tant une cause, c'est plutôt une conséquence. Étant donné qu'on doit être dans des haut pourcentage proche du 1 RM ou dans des hauts RPE, tu pourras pas faire plus de 3 à 5 reps en fait.
Et justement, pourquoi ça peut être seulement les lourdes charges en gros qui permettent d'utiliser ces facteurs nerveux, outre le fait que pour ceux qui font de la force, forcément c'est une rep qui est demandée en compète.
Ouais.
Pourquoi par exemple avec des reps légères, je pense à 60%, 70%, ça peut pas être directement ces facteurs-là qui sont entraînés en priorité? Pourquoi c'est forcément du lourd?
Après, juste pour ce que tu as dit, un truc intéressant sur la force. Sur la force, faire des reps lourdes, des singles, c'est le mouvement de compétition. Je te rejoins complètement là-dessus. En fait, finalement, je pense que pour la programmation en force, faire des singles, ça retient plus de l'entraînement, anciennement ce qu'on appelait préparation spécifique, plutôt que de la prépa physique, en gros. Voilà, juste pour mettre la différence. Et pourquoi ça marche mieux qu'avec 60% du NRM? Alors c'est pas que ça marche pas, hein, bien sûr, mais comme dit tout à l'heure, il faut un certain niveau de contrainte pour avoir une adaptation. C'est-à-dire que si jamais tu travailles à 60% de ton RM ou que tu travailles à RPE 5-6, le niveau de contrainte va être moindre et du coup tu as moins de chances d'avoir, en tout cas tu auras une moindre adaptation. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas arriver. Par exemple, on peut avoir un niveau de contrainte moindre sur une semaine de déload, par exemple, ce qui là fait sens dans la programmation. En revanche, si tu es à 60% de ton RM, tu vas utiliser moins de fibres musculaires, du coup, donc moins solliciter ton système nerveux, et si tu le sollicites moins, il va moins s'adapter, et du coup, moins se développer.
Du coup, ça me fait penser à ce qu'on apprend en BPGEPS. On apprend, par exemple, que le corps de base est feignant, les muscles sont feignants. En gros, quand je descends une charge, si j'ai pas besoin, je dis au hasard un nombre de fibres, imaginons que pour développer une charge très lourde, j'ai besoin de 100 fibres. C'est un nombre qui est ridicule, il y en a beaucoup plus, hein, mais c'est donner un exemple. Imaginons que là, j'ai que 60% de mon RM, et du coup, le corps feignant, il va utiliser le moins de fibres possible pour bouger cette barre. Donc, on va dire que j'ai que 40 fibres sur 100 qui poussent cette barre. Et du coup, plus c'est lourd, plus du coup, je vais avoir de fibres recrutées. C'est bien ça.
Exactement. En gros, c'est ça l'idée. Notre corps, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'héritage de milliers d'années d'évolution. Si on retrace un petit peu pour Homo sapiens, on est à 200 000 ans d'évolution environ, entre 200 000 et 300 000 ans suivant les sites. Et ce qui prime, c'est l'efficience. En gros, les êtres qui étaient les plus efficients, c'est ceux qui ont le mieux survécu, du coup. Parce que c'est ceux qui se cramaient, on va dire, qui se crament le moins. C'est pour ça que notre corps va utiliser juste ce qui est nécessaire pour réaliser un mouvement. Donc si tu as besoin que de 40 fibres sur 100, on va prendre 100, par exemple. C'est un chiffre non contractuel, vous avez bien plus que 100 fibres dans la plupart de vos muscles.
J'espère pour vous.
J'espère, sinon... Sinon c'est chaud, mais si t'as besoin que de 40 fibres sur 100 pour réaliser ta contraction, tu vas en utiliser que 40, c'est sûr. Après, si
c'est un des premiers...
Vas-y.
C'était donc un des premiers trucs à faire, avoir plus de fibres, donc c'est pour ça que c'est plus lourd. Et aussi, avoir plus de fibres et plus vite en gros, recruter plus de fibres plus vite, parce que normalement quand on soulève une charge, le corps va dire, ok là je vais mettre 20 fibres sur 100 pour voir, ça bouge pas. Je rajoutais 40, ça bouge un peu mieux, mais c'est pas ça. 60, ça bouge. Là, il y a un angle faible, il remet 80%, et après, il met 100. Donc ça, c'est un laps de temps qui court par rapport à au laps de temps de la vie de tous les jours. Mais plus on arrive à avoir ce ratio, je n'ai plus le mot en français, c'est firing rate en anglais, avec l'accent.
Ah oui, attends.
Plus c'est rapide, c'est pas ça? Plus c'est rapide, plus on peut développer de la force.
Exact. C'est le... Putain, je l'ai plus en français non plus. Je crois que...
Je l'ai pas en français.
De mémoire, ça doit être le tétanos temporel. Mais oui, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne. En fait, votre système nerveux, il envoie des influx. C'est vraiment une... C'est un... Alors, mon prof de physique va me tuer parce que je vais dire que c'est un courant électrique. C'est un signal électrochimique. Voilà, parce qu'il y a aussi des hormones, donc... Donc voilà, au moins tout le monde sera content. Mais voilà, le but en fait, en devenant plus fort, c'est qu'on arrive à envoyer plus d'influx, donc avec une plus haute fréquence, et plus vite. En fait, c'est ça les deux adaptations principales à l'entraînement en force. Et aussi, on développe du coup la capacité à recruter plus de fibres nerveuses. C'est pour ça que c'est pas forcément le plus lourd qui va être le plus fort. C'est aussi ça qui est à prendre en compte.
C'est la différence du coup entre un bodybuilder et qui fait 80 kg et qui squatte 200 et quelqu'un qui fait 66 kg et qui squatte 280. Il a moins de masse, donc sur le facteur hypertrophie, il est en dessous, mais sur les facteurs nerveux, il est loin, loin devant parce qu'il l'entraîne justement.
Exactement, parce qu'il va y avoir après... Il y a tout un système de réflexes qui est mis en place dans le corps humain par rapport aux tensions, etc. Par exemple, fallait que je le perde maintenant. Mais lorsqu'il y a trop de tension dans un muscle, vous avez un réflexe d'inhibition qui est mis en place. Réflexe myotatique inverse, voilà, c'est celui-ci. En gros, c'est quand vos bras ils lâchent. Par exemple, vous êtes au biceps curl, vous essayez de faire, vous allez à l'échec, et là, tu arrives en général à 90 degrés, parce qu'à 90, c'est là où il y a le plus de force dans un couple de force. Et en général, à ce moment-là, ça lâche, parce qu'il y a eu trop de tension pour le corps, et que le corps va venir l'inhiber. Il va venir inhiber la contraction musculaire. Ça, c'est des choses qui vont aussi évoluer avec la pratique, comme la tolérance à la douleur, comme la capacité à recruter ses fibres musculaires, c'est des choses qui évoluent avec la pratique. Avec deux pratiques différentes, du coup, la pratique pour l'hypertrophie et la pratique pour la force, un bodybuilder avec une masse maigre de 80 kg et un force athlétiste, parce que c'est comme ça que c'est marqué d'ailleurs dans le règlement, mais on va dire un power, parce que c'est quand même plus sympa de dire ça comme ça.
C'est beaucoup plus stylé.
Merci. Un power de 80 kg de masse maigre, le power aura plus de force. On aura souvent, en tout cas très souvent, plus de force. Ouais. Parce qu'il a plus de capacité à recruter ses fibres musculaires. Après, il faut savoir que cette capacité à recruter les fibres musculaires, elle peut aussi varier suivant les événements. Je pense par exemple aux événements traumatiques. À titre personnel, moi j'étais sapeur-pompier pendant 5 ans et on a eu plusieurs formations pour les événements de grande ampleur, type accident de train, etc. Et en fait, il y a des personnes dans une situation de catastrophe comme ça qui vont développer une force surhumaine. Typiquement, le parent qui va voir son fils écrasé sous une voiture et qui va réussir à soulever la voiture à la force de ses jambes. On sait aujourd'hui que les événements traumatiques permettent un développement de la force et d'accéder à 100% de ses fibres, en fait. Mais pourquoi on a évolué pour ne pas accéder à 100% de ses fibres ? Parce que ces personnes-là, quand on les récupère après, il y a tout qui a pété. En général, ils finissent sur un lit d'hôpital, sur le ventre pendant plusieurs jours pour récupérer nerveusement et physiquement. Et il y a quelques tendons, etc., qui ont laissé des plumes. Donc c'est pour ça que... Il faut comprendre que ta masse musculaire, tu n'y as pas accès à 100% et qu'il faut l'entraîner pour. Voilà.
Et du coup, ça rentre dans les facteurs nerveux, je pense. Je prends l'exemple d'un débutant. Donc moi, par exemple, vu que je cours dans les salles de CrossFit, je vois énormément de débutants sur le développé couché. Mouvement très peu travaillé au CrossFit. Et du coup... Tous les débutants, en débutant, ont la même chose, c'est qu'au début, la barre, la trajectoire de la barre n'est jamais la même. Ça tremble un peu de tous les côtés, et souvent à la fin de la séance, donc sous fatigue, mais en ayant fait plus de reps, ils sont meilleurs. C'est-à-dire que la trajectoire est meilleure, ils soulèvent plus de charges, ils se sentent plus à l'aise. Est-ce que ça, du coup, aussi, c'est un facteur nerveux ?
Ce serait complexe, c'est pas un facteur uniquement nerveux. Les nerveux rentrent forcément en ligne de compte dedans. C'est surtout un facteur d'apprentissage, pour le coup. C'est-à-dire que tu as constaté, à l'œil nu, un apprentissage entre le début et la fin de la séance. Donc, de ce que je dirais de cette situation, on a un facteur nerveux qui s'est amélioré, mais pas forcément celui qu'on pourrait penser. Là, j'ai parlé du nerveux de manière très descendante, donc en fait du cerveau vers les muscles, mais il y a aussi des facteurs nerveux ascendants. Donc ascendant, ça va être toutes les informations proprioceptives que va renvoyer ton corps à ton cerveau ou à la moelle épinière qui vont le traiter et du coup renvoyer une info. Et du coup, on a fort à penser que ces personnes ont recueilli des informations proprioceptives lors de leur série d'échauffement ou lors de leur première série de travail. Et ces informations, le placement de l'épaule, etc., ces informations transmises par les mécanorécepteurs, donc tout est dans le nom, hein. Mécanique parce que c'est du mouvement, récepteur parce qu'ils reçoivent l'info. D'ailleurs, les mécanorécepteurs, ce sont des... Comment dirais-je ? Des petits appareils spécialisés dans votre corps qui traduisent la tension en message. Donc en gros, ils vont dire « Ah, là sur la peau, il y a de la tension. Ok, je ressens le contact du banc. Tiens, je peux m'ancrer dans le banc. Sur mes épaules, là j'ai de la tension lorsque je serre les omoplates. Ah, ok. Du coup, je sais que mon épaule, elle est dans cette position-là. » Parce que vous ne voyez pas vos épaules. Et c'est une situation que vous n'avez peut-être pas beaucoup rencontrée dans votre vie. Du coup, vous avez besoin d'emmagasiner de l'info. Et une fois que vous avez emmagasiné cette info, ça va permettre d'éviter les co-contractions. Donc c'est aussi pour ça qu'ils produisent plus de force, je pense. C'est parce qu'en fait, votre message nerveux, il est peut-être pas de meilleure qualité. Il est peut-être pas différent. Mais en fait, il est mieux hiérarchisé. Il est mieux organisé. Maintenant que vous avez plus d'infos proprioceptives et que vous savez mieux comment vous situer, vous pouvez diriger le message nerveux plus efficacement vers les muscles qui font le mouvement et du coup développer plus de force.
Alors, deux mots que tu as utilisés, que tout le monde peut-être ne comprend pas, proprioception, parce que je sais qu'il y a beaucoup de tout et n'importe quoi sur la proprioception. Rappelle-nous un peu ce que c'est la proprioception.
Alors, j'avais fait un post entier dessus, sur mon Instagram, je me rappelle.
Une phrase un peu simple pour que tout le monde puisse partir.
Une phrase un peu simple. J'avais repris une phrase de la proprioception, je dirais. Alors en plus, elle n'est pas de moi. C'était une phrase de... Je vais te retrouver la source. Je dirais que c'est une sensibilité très profonde du corps à lui-même. J'avais beaucoup aimé cette phrase qui était de Georges Bress. Voilà. Mais en gros, la proprioception, c'est comment le corps va se situer par rapport à lui-même dans l'espace. Donc en fait, c'est comment votre corps, sur ces informations, surtout liées en fait, aux articulations. Alors, on ne va pas faire le tour de tous les mécanorécepteurs, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a dans la peau, il y en a dans les tendons, il y en a dans les muscles, il y en a dans la capsule articulaire. La capsule articulaire, c'est le manchon qui entoure votre articulation. Enfin, pour la faire courte, une articulation, ça va être deux os en contact. Pour faire très simple, et le tout est maintenu par un manchon autour qui est la capsule articulaire. Pour faire très 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 simple. Parce que tout le monde voit très bien en général les ligaments, les tendons, les muscles qui sont autour, mais on oublie très souvent la capsule. Et du coup, toutes ces informations vont permettre à votre corps de se situer dans l'espace, même si vous avez les yeux fermés et que vous êtes dépourvu en fait de votre vue, de votre ouïe, etc.
Ok. Et le deuxième mot que tu as utilisé, c'est co-contraction.
Alors, co-contraction, celui-là est plutôt simple, hein, c'est dans le nom. C'est lorsqu'il y a deux contractions en même temps. Donc, c'est...
Tu peux donner un exemple.
Par exemple, sur le développé couché, bah, c'est le fait d'être crispé. Tu vois ce que je veux dire ? Si, lorsque vous faites un mouvement pour la première fois, qui plus est un mouvement complexe, vous allez être très crispé, très tendu, et ça va vous bouffer plus d'énergie, parce qu'il va y avoir des... co-contraction. Voilà, c'est l'image la plus grossière, en gros, de co-contraction. C'est lorsqu'il y a deux contractions en même temps, mais... Ah ouais, je veux juste finir là-dessus. C'est lorsqu'il y a deux contractions en même temps. Mais après, nous, quand on l'utilise, en général, c'est pour dire qu'il y a une contraction qui sert à rien entre les deux.
Par exemple, est-ce que sur un curl biceps, donc mon biceps est contracté, est-ce que tu peux... les camions passent, il n'y a pas de souci. est-ce que mon biceps est contracté, est-ce que mon triceps pourrait être lui aussi contracté quand je fais un curl biceps et empêcher du coup de faire correctement mon curl biceps? Est-ce que ça, on pourrait appeler ça une co-contraction ou en simplifiant énormément?
En simplifiant énormément, on pourrait appeler ça une co-contraction. Après, à savoir que lorsqu'il y a une contraction d'un agoniste, donc en gros l'effecteur du mouvement, là on parle de flexion du coude, donc on va être sur le fléchisseur du coude, donc le biceps brachial. C'est pas c'est le fléchisseur principal. Je sais qu'il y en a d'autres.
Principal.
Voilà. Mais soyons précis. Votre corps, il est aussi prévu pour que le muscle antagoniste, donc le muscle opposé, se relâche à ce moment-là. En tout cas, ait le moins de tension possible pour permettre un mouvement le plus efficace possible. Et c'est ce qu'on appelle le réflexe d'inhibition réciproque. Donc, si on a, entre guillemets, un réflexe d'inhibition réciproque qui est peu entraîné, je dirais pas qu'il est mauvais parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais réflexe. Je dirais que la vie avant tout, c'est des rencontres. Mais j'étais obligé de la faire. Pour ceux qui auront la ref. Mais voilà, si on a un réflexe d'inhibition réciproque qui est peu entraîné, on peut avoir une co-contraction du coup du triceps qui peut ralentir le mouvement.
Et du coup, plus on s'entraîne, moins on l'aurait. Et du coup, plus on devient efficace pour faire son curl biceps, du coup.
Bah, c'est aussi simple que ça. De toute façon, plus on s'entraîne à quelque chose, meilleur on devient à cela. C'est très simple, dit comme ça, mais quand on comprend pourquoi, on se dit que, en fait, oui, ça fait totalement sens.
Du coup, pour revenir à la force, tout ce qui est squat, développé couché sous les terres, on peut dire que la technique, c'est un facteur nerveux. Enfin, ça fait partie de cette tranche nerveuse, quoi.
Bah en fait,
genre comment on se place, comment
ouais,
on réagit.
Ouais, c'est ça, moi j'ai du mal avec le terme la technique. Il y a autant de techniques qu'il y a d'athlètes, tu vois. Déjà, selon ta morpho-anatomie, ta technique va changer. Parce que je sais.
Le développement de notre technique personnelle, par exemple.
Ouais, voilà, c'est ça, parce que la technique doit être personnelle. Si jamais tu tombes sur un coach qui te dit ah bah regarde, lui c'est le champion dans ta catégorie, il squatte comme ça, tu dois squatter pareil, il a rien compris. À part si vraiment vous avez une anatomie complètement parfaite, parfaitement la même, et que vous avez les mêmes envies et les mêmes facteurs de motivation, et encore. Mais bref, parenthèse fermée, la technique est influencée par énormément de facteurs nerveux. Ça c'est sûr, bah, notamment la proprioception, donc comment j'arrive à situer mon corps. Et en fait, avoir une bonne technique, entre guillemets, ce serait, oui, à la limite, peut-être être régulier, pour pouvoir utiliser le même mouvement à chaque fois, qui du coup sera un mouvement optimisé pour tes leviers et pour tes facteurs de motivation. Donc je dirais que oui, c'est des facteurs nerveux, parce qu'il faudrait arriver à reproduire la même contraction à chaque fois, dans le même ordre, et avec la même coordination. Exemple tout bête de coordination, j'ai perdu le mot en français, c'est pas grave, le fait de verrouiller les genoux puis les hanches. En gros, il y a deux styles sur le squat et sur le soulevé de terre. T'as des athlètes qui vont venir verrouiller les genoux puis les hanches, et d'autres qui vont venir verrouiller hanches et genoux en même temps. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose qui se répète et qui soit adapté à l'athlète. T'as des athlètes qui, lorsqu'ils vont verrouiller les genoux puis les hanches, vont développer des problèmes de genoux parce que ça met plus de pression sur le genou, etc. Et peut-être qu'ils n'ont pas la capacité, tu vois. Ou tout simplement, ça va les déséquilibrer en avant. Parce que forcément, si t'as les genoux tendus et que t'as les hanches fléchies, vous pouvez essayer avec une barre, t'es penché en avant, tu vois. Donc après, suivant la gestion du centre de gravité, suivant les capacités de pronation du pied, etc., ça peut changer. Mais du coup, pour reproduire ta coordination de je verrouille hanche puis genou, ou alors l'inverse, il faut que tu aies les qualités nerveuses nécessaires. Et les qualités nerveuses nécessaires, ça va être quoi? Ça va être situer son corps dans l'espace et pouvoir envoyer un influx qui soit toujours le même.
Ok, donc si on peut un peu résumer ce qu'on a dit, les facteurs nerveux, ça peut être du coup ce qu'on vient de le dire, la proprioception, ça peut être le nombre de fibres qu'on arrive à recruter, et surtout aussi le message et l'envie qu'on a de réaliser du coup un mouvement.
C'est ça. Bah, en gros, moi, je résumerai les facteurs nerveux dans deux grandes catégories. Les facteurs descendants, donc vraiment tout ce qui part du cerveau vers les muscles. Donc là, ça va être l'ordre de contraction, la motivation qui va rentrer en compte de jeu. Parce que vraiment, la motivation, je l'ai mis en tout premier, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut être motivé pour créer le mouvement. Donc voilà, ça va être ton ordre de contraction, la qualité du coup de la transmission, si t'as une fibre nerveuse qui est entraînée ou désentraînée tout simplement. Et après, ça va être d'autres facteurs qui sont là plutôt chimiques pour la qualité de la contraction. Et après, t'as du coup les qualités nerveuses ascendantes. Donc là, ça va plutôt être la création de l'information et sa transmission par les mécanorécepteurs, enfin la création par les mécanorécepteurs, pardon, et sa transmission par les fibres nerveuses. Donc moi, je dirais que c'est ça, vraiment les grands facteurs nerveux de la force.
Et pour que nos auditeurs partent avec quelque chose de plus pratique, imaginons, ils se disent aujourd'hui, j'aimerais bien entraîner mes facteurs nerveux sur le DOP couché, qu'on a commencé le DOP couché, ouais, dans leur séance. Donc là, ils vont dans leur salle de musculation. Ils disent, ok, aujourd'hui, je vais entraîner mes facteurs nerveux. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans leur séance, en pratique?
En pratique, on va commencer par le début. Donc, on va commencer par l'échauffement. Donc, au niveau de l'échauffement, moi, je leur conseillerais de pratiquer des CARS. Donc, des racks en français, des rotations articulaires contrôlées. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, dans la capsule articulaire, on a plusieurs mécanorécepteurs. Donc ça va permettre de les entraîner. Le but du jeu, ça va être de pouvoir bouger son articulation dans tous les angles possibles, sans la regarder, pour pouvoir apprendre à la situer dans l'espace. Pareil, ça va venir stimuler les muscles, enfin les récepteurs qui sont dans les muscles et dans les tendons, et qui va permettre déjà de collecter des informations sur votre corps à l'instant T. Ça pourrait être une bonne chose. Pour les facteurs nerveux descendants, ce que je leur conseillerais de pratiquer, ce serait, pour commencer, à des RPE assez hauts, donc RPE 7, 8, tu vois, de pratiquer avec des pauses. Ok. Donc pratiquer, ça permettra de développer aussi leur technique. J'aime pas trop le mot développer parce que ça donne toujours une image de bonne et de mauvaise technique, mais plutôt de standardiser la technique. Donc en fait, la rendre reproductible. Et pour ça, je conseillerais de pratiquer avec des pauses ou des tempos lents. Donc des pauses qui peuvent se faire mid-range, ou à la fin ou au début d'une range. Typiquement sur le développé couché, on fera des pauses à la poitrine. Pour après, c'est parce qu'on le fait aussi en compétition, tu vois. Mais des pauses à la poitrine, ça peut être très intéressant parce que c'est aussi là où les articulations, enfin les muscles, pardon, sont en position d'étirement. Et étant donné que les mécanorécepteurs sont sensibles à la tension, le fait qu'ils soient en position d'étirement, c'est ce qui va envoyer le plus de messages. Donc ça sera aussi intéressant pour les voies ascendantes.
Ok.
Donc en gros, c'est ça que je vous dirais, c'est à l'échauffement, faites des rotations articulaires, et à l'entraînement, soyez dans des RPE assez hauts, et pratiquez avec des pauses ou avec des tempos lents.
Donc par exemple, on pourrait imaginer quelqu'un qui vient faire son développé couché, et donc il fait son échauffement avec les CARS, donc avec les rotations contrées d'articulation, en rapport avec le développé couché, et s'ils ont le temps, pourquoi pas tout, sachant que le bas du corps est quand même très présent sur le développé couché. Pas l'oublier. Et après, ils peuvent se dire, je vais commencer par une série de 3 reps un petit peu lourdes. Donc, je sais pas, on va dire qu'ils font 3 reps à 120. Après, ils vont faire deux séries de 3 un petit peu moins lourdes, à 110 par exemple. Et après, ils vont faire une autre partie. À nouveau, je dis au hasard, 3 séries. Ils vont rester RPE 7 ce coup-ci. Et on va faire une pause à la poitrine par exemple, s'ils font de la compétition de force. Ou sur leur angle faible, où ils aiment bien par exemple faire une pause. Pour développer un lien faible dans leur mouvement. Et là, ils vont faire, je sais pas, ils vont rester RPE 7 pour, j'ai au hasard à nouveau, 4-6 reps. Est-ce que du coup, ça, tu pourrais dire que tu pourrais appeler ça une séance pour développer des qualités nerveuses?
Clairement. Clairement, bah, ça check toutes les cases. Et ça, c'est la porte d'entrée. Et puis après, on peut toujours apporter de nouvelles choses. Il y a des gens qui poussent plus loin, qui rajoutent de l'isométrie. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais au niveau stimulation du nerveux, si vous faites de l'isométrie overcoming, donc c'est-à-dire vous poussez à fond, là, niveau stimulation du nerveux, je pense pas qu'on puisse faire mieux, tu vois.
Je pousse contre un mur, par exemple.
Exactement, je pousse contre un mur. Pareil, je prends des pincettes parce que je vais pas aller chez chaque personne leur planter une aiguille pour prendre leur tension, tu vois. Mais on est en droit de penser qu'il n'y a pas mieux, en tout cas, que l'isométrie overcoming. Donc, c'est l'isométrie qui se rapproche de la contraction concentrique. C'est-à-dire que tu pousses à fond dans un mur, tu vois. Ou alors, tu mets une barre de soulevé de terre que tu pourras jamais soulever de ta vie et tu pousses dedans. Enfin, tu essaies de la tirer, plutôt. Ça peut être des très, très grosses stimulations du système nerveux.
Ok. Et une séance, par exemple, de force orientée au système nerveux, enfin, de développement nerveux, je peux faire ça combien de fois dans la semaine?
Alors, dans les livres, la récupération nerveuse, c'est aux environs de 24 heures. Donc, en moyenne, dans les livres. Le problème, c'est que la récupération nerveuse, elle fait pas tout. Il faut aussi que tu aies une récupération hormonale. Il faut aussi que tu aies une récupération psychologique, donc motivationnelle. Parce que les se mettre sous des grosses barres, c'est pas le même impact psycho pour tout le monde. Donc, je dirais minimum 24 heures et peut-être 48, voire 72 heures, suivant les individus. Ça va dépendre de tes qualités de sommeil, ça va dépendre de tes qualités d'alimentation, ça va dépendre de ton niveau de motivation. Si tu vas à reculons, que tu as dormi 6 heures dans ta nuit et que tu n'as pas mangé comme d'habitude, qui plus est des aliments que tu n'aimes pas spécialement, mets plus de 24 heures. Clairement.